C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Culture queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Et c'est le dernier segment Culture Queer de la saison. On est rendu là.
Oui.
On est rendu là déjà. Allô, Joël!
Bonjour!
Joël, le prud'homme humoriste qui est avec nous, qui est notre chroniqueuse. Et Brian Saint-Louis, qu'on retrouve à Québec. Salut, Brian!
Bonjour tout le monde!
Alors, et aujourd'hui, on a beaucoup d'invités. On va commencer par présenter celui qui est avec nous présentement, l'auteur et dramaturge Olivier Sylvestre, qui vient de présenter sa plus récente pièce de théâtre qui s'appelle « Retour à Laval ». Bonjour, Olivier.
Bonjour, Denis Martin.
Et nous parlerons un peu plus tard aussi avec l'équipe de Femme, la deuxième saison de Femme à TV5 Uni, avec l'artiste Lenny Kim, qui tient le rôle principal, Maxime Beauchamp, qui est l'idéateur et showrunner de la série, et Marianne Farley, qui est la réalisatrice. Mais on va commencer par toi, Olivier.
Yeah!
Puis je pense que c'est un sujet qui a beaucoup interpellé Brian, parce que, Brian, tu as lu le texte de la pièce de théâtre « Retour à Laval » qui a été publié là, récemment aux éditions AMAC, AMAC Théâtre.
L'as-tu lu au complet? Parce que c'est très long, hein?
Très long, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais non, j'ai l'ai lu. Bien sûr.
Non, elle est très courte, en fait.
Non, c'est ça, 74
pages, oui, c'est juste drôle.
Puis
oui.
Du théâtre, en général, ça se lit rapidement.
En plus, oui.
Puis moi, j'ai eu le bonheur de voir la pièce de théâtre.
Oh!
Oui!
Alors, allons-y, Brian, qu'est-ce que tu as pensé de ta lecture?
Bien, on peut faire un petit résumé, peut-être, pour mettre les gens en contexte au début. L'alter ego d'Olivier, possiblement, retourne à Laval. Il est choisi pour faire un discours à son conventum de secondaire, parce qu'il est un de ceux-là qui l'a le mieux réussi. Et on le choisit, donc il va présenter. Et à un moment donné, il a un texte et il présente les gens, mais à un moment donné, l'émotion le submerge. Et ça devient une espèce de montée de lait où il parle aux gens qui sont assis dans la salle, qui l'ont intimidé énormément pendant son secondaire. Donc, ça sort. Et là, c'est des occasions de régler quelques comptes un peu avec ce passé-là. Donc, on est dans un discours de dénonciation de l'intimidation. On voit un peu le mécanisme de l'intimidation. On voit comment ça fonctionne. On voit aussi comment ça a traumatisé beaucoup de gens évidemment, des communautés, d'avoir passé au travers ces années-là. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que on semble avoir un peu changé. Je disais, dans le temps, les livres des communautés, c'était beaucoup des livres de coming out, c'était beaucoup des livres sur l'acceptation de soi, ainsi de suite. Là, il y a beaucoup de livres un peu plus qui parlent de traumatisme, d'intimidation. Ça s'inscrit un peu dans cette mouvance-là, cette pièce de théâtre-là. Je ne sais pas ce que ça donnait sur scène, Denis Martin. As-tu aimé la pièce?
Sur scène, c'est intéressant parce que c'est un monologue, cette pièce, si je ne me trompe pas.
Voilà, bien sûr, oui, c'est ça.
Et sur scène, il y avait deux acteurs parce qu'il y avait comme un acteur qui jouait le moment présent ou qui racontait, puis l'autre qui intervenait un peu comme c'était le moment passé. Vraiment un processus de mise en scène intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et c'était présenté devant des étudiants et des étudiantes du secondaire.
Ah.
Et moi, j'avoue là, que d'aller voir du théâtre quand il y a des jeunes, c'est le fun parce qu'eux autres, ils réagissent, puis ils ne gênent pas.
Ouais.
Ils gênent
comment
pas
réagissaient-ils, ouais, ces jeunes-là, justement?
Ben, vas-y, Olivier.
D'abord, par rapport à la mise en scène, en fait, moi, j'ai écrit un monologue, puis j'ai approché une metteuse en scène de Laval, Talia Almona, qui est aussi mon amie et qui dirige une compagnie depuis plus de 10 ans là, à Laval. Elle a fait plusieurs spectacles, dont un, moi et l'autre, qui a tourné 250 fois devant des ados. Donc, elle sait ce qui marche, elle sait ce qui marche pas, puis elle sait comment s'adresser à ce public-là en respectant leur intelligence. Puis moi, ça, c'était vraiment important. Puis en fait, moi, j'ai pas écrit cette pièce-là en me disant « Ah, je vais écrire une pièce pour ados ». J'ai écrit cette pièce-là, justement, comme tu disais, Brian, un peu pour régler mes comptes avec mon adolescence.
À catharsis, quoi.
Oui, c'est ça, peu dans une espèce d'élan de catharsis, en me censurant pas, puis en me disant « Au pire, ça sera un peu moralisateur, mais j'adoucirai le trait après ». Donc, quand j'ai approché Talia avec le projet, en fait, c'est elle qui a eu l'idée de diviser, en fait, de faire la mise en scène, de prendre deux acteurs, puis d'en prendre un qui est effectivement dans le moment présent du conventum, donc du discours, et qui vient 15 ans après le secondaire, qui revient affronter son école, ses souvenirs et sa cohorte. Et l'autre qui est un peu, qui est son alter ego en fait, donc qui est un peu celui qu'il porte en lui, c'est-à-dire un peu celui qui porte aussi, c'est ça, ses traumatismes et puis dans le passé, mais aussi ce qui est intéressant dans la mise en scène, c'est qu'il joue tous les autres personnages dont Luca nous parle au fur et à mesure des scènes, et ça ajoute quelque chose, et ça évite justement par moments le côté moralisateur, parce qu'il s'adresse bel et bien au public et à la gang de gars qui le traitait de tapette, le mot hanté, et le mot hanté également, il y a un jeu de mots là-dessus. Et donc, en fait, le fait d'avoir recours à ces deux gars-là qui rentrent dans leur bulle aussi, puis qui, donc, les deux acteurs qui jouent ensemble, bien, je trouve que ça atténue un peu ce côté-là, puis ça permet vraiment de rentrer dans les récits aussi, dans la narration, et que ce soit pas juste frontal, en fait, que ce soit pas juste un discours, là. Mm-hmm. C'est ça, voilà. Donc, c'est comme ça que je le décrirais, mais on est vraiment content parce qu'on a joué devant une salle pleine d'ados. T'étais là, Denis, ouais. Martin, puis...
J'étais le plus vieux des ados.
T'étais peut-être le plus vieux des ados, mais ma mère était là aussi, donc... mais oui, c'est ça, en fait, c'était extraordinaire. Puis moi ma paye là-dedans, c'est quand des ados queer viennent nous voir après le spectacle, puis qu'ils me disent c'est la première fois que je vois mon histoire représentée sur scène, tu sais. Donc ça, c'était vraiment... ouais, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, ouais.
Moi, j'avoue, parce qu'on abordait des thématiques queer, et j'avoue que ça m'avait un peu inquiété. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont réagir. Et la réaction était vraiment positive.
Oui.
Quelque part, peut-être qu'on a des préjugés, hein? Alors je vais me taper sur la tête moi-même, mais je me dis, mais comment ils vont réagir? Mais non, mais pas du tout. C'était des réactions... en fait, il y avait de la colère quand les choses étaient inacceptables.
Oui.
Et comme j'ai dit à ce public-là, tu peux pas niaiser parce qu'il va te dire ce qu'il pense tout de suite. Mm-hmm. Hein?
Oui, puis bon, en fait, on devait avoir deux représentations là au festival à la Rencontre Théâtre Ado, puis finalement, ben il y a une des représentations qui a été annulée. Puis c'est pas faute du travail de personnes dans l'équipe en fait, mais certaines écoles ont pas voulu se déplacer dû au contexte et au climat actuel par rapport à tous les enjeux autour de la diversité sexuelle et de genre. Et quand j'ai su ça, ça m'a vraiment fâché. Et
ouais.
après, je me suis dit, ben au moins ceux qui sont là, ben ils sont là, puis on va leur donner un bon spectacle, puis eux ils vont en tirer quelque chose, après ça m'a aussi un peu mis le feu au derrière, dans le sens que je me dis, ben en fait le combat continue, puis on doit pas s'asseoir aucunement sur nos lauriers par rapport à ces questions là même chose avec le racisme, la misogynie, etc. Donc toutes les groupes minoritaires, on doit constamment revenir au front, parce que en effet il y a une espèce de backlash qui est peut-être présumé aussi, peut-être qui est, les profs ou les écoles en ont peur. Et c'est pour ça que, voyant que la pièce parlait d'homosexualité puis parlait d'identité, ils n'ont pas osé. Mais en même temps, c'est ça. Je suis comme ambivalent par rapport à ça.
Ça m'apparaît complètement absurde parce que c'est d'autant plus important s'ils observent à l'école des... Mais je pense qu'on est tous d'accord en ce moment autour de la table. Puis probablement les gens qui écoutent la culture et l'art arc-en-ciel sont d'accord aussi. C'est malheureusement à eux qu'il faudrait s'adresser. C'est aux gens qui ont pris cette décision-là. Ouais.
Et pourtant, les ados qui étaient dans la salle, je veux dire, la plupart étaient pas queer, là. Fait que, tu sais, puis c'est ça, effectivement, on n'a pas eu du tout... C'est pas un spectacle qui suscite des réactions agressives du tout. Puis même, il y a un jeune qui est venu témoigner au micro puis qui a dit, ben moi, je suis grand, j'ai les cheveux bouclés, puis je suis autiste, fait que tout le monde pense que je suis gay, puis je me suis fait niaiser, puis tout ça. Fait qu'il nous a partagé son vécu spontanément, puis je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un peu un récit d'un parcours d'une minorité, puis peu importe quelle est notre situation, bien, quand on peut se reconnaître par rapport à ce parcours-là, même si on n'est pas gay, en fait.
Toi, Brian, que...
Là, Olivier, bon, on a le même âge, nous, fait que l'espoir, c'est que ce souvenir-là de ces générations-là, de ces années-là de secondaire, que maintenant les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'on décrit dans le livre là, les mécanismes de la horde, par exemple, là, le clan qui se forme, la masculinité toxique, c'est là comment être dans les cools, pas les pas cools. On espère que les jeunes aujourd'hui, quand ils sont confrontés à des œuvres comme ça, ben, ça leur explique plus des mécanismes duquel, après ça, ils peuvent corriger, parce que sinon, c'est la nature humaine qui prend le dessus. Donc, c'est bien qu'ils soient confrontés à des œuvres comme ça. Là.
Mm-hmm. Et ton verdict?
Moi, ce que je me demandais, parce que je n'ai pas lu que Retour à Laval, bien sûr, j'ai passé une grosse semaine. J'ai aussi lu Non Fictif.
Oui.
Ça, c'est un autre recueil que tu as publié, un peu des expériences par rapport à ton travail chez... Toxiète, tout ça. Non,
Répitoxico, ouais. Mais oui. C'est un nom fictif, ça aussi. Voilà. Ouais, ben, écoutez, Nom fictif va avoir bientôt 10 ans. Hein, donc, ça a été publié en 2017. Donc,
j'ai trouvé ça par hasard dans une boîte à livres cette semaine.
Ouais, non, il y a quand même pas mal circulé. Non, je suis vraiment content. Mais donc, c'est ça. Puis, tu sais, je faisais une dédicace à l'exemplaire de Denis Martin juste avant l'émission. Puis je disais, ben, malheureusement, guillemets, le livre n'a pas pris une ride dans le sens que les questions d'itinérance, de toxicomanie, elles sont toujours aussi brûlantes. Mmh. Elles le sont même davantage depuis la pandémie, depuis la crise du logement, etc. Tout ça, c'est des réactions en chaîne. Hein? C'est-à-dire
ça touche beaucoup nos communautés, en plus de
en
ça.
En plus, ouais. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Donc, des fois, je me dis...
Il y a peut-être beaucoup de gens qui ont vécu des situations comme dans Retour à Laval, qui plus tard vont se retrouver avec des situations de difficultés personnelles.
Oui. Puis, tu sais, c'est ça, le livre est souvent mis dans des programmes, dans des cours de français au cégep, par exemple. Puis, je me dis des fois, est-ce que ça commence à être un peu passé date? Puis, en fait, pas du tout. Je réalise que non, parce que, c'est ça, malheureusement, avec tout ce qu'on vit. Voilà.
L'intimidation, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va continuer après la pause. L'intimidation, c'est pas juste une affaire de gars. Les filles vivent ça aussi.
100%, bien sûr. Il y a même une humoriste, Anne-Sara Charbonneau, qui en parle beaucoup sur scène. Elle est allée dans une école de femmes. Elle, en se disant, puis tu sais, elle en parle sur scène aujourd'hui, elle est ouvertement queer. Puis elle disait, tu sais, quand je dis ça, les gens sont comme, mon Dieu, c'est le paradis des lesbiennes. Mais elle dit non, c'est l'inverse. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'intimidation, même chez les femmes. Donc, je pense que c'est comme n'importe quoi. Plus on en parle, plus il y a de la diversité, plus on en voit, moins, j'ose croire, il y en aura de l'intimidation.
En tout cas, c'est désolant. C'est désolant d'entendre ça. Moi, qui suis un peu plus vieux que tout le monde, je me disais peut-être qu'après moi, il n'y en aura plus de ce genre de trucs-là, mais ça a l'air que ça continue. On va faire une courte pause. Vous restez, puis on continue la discussion.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Culture queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Ben oui, c'est le dernier Culture queer de la saison, mais on est très contents, on a de la grande visite. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a en studio avec nous Olivier Sylvestre, auteur et dramaturge. Et là, bien, il y a Lenny Kim, l'artiste, l'acteur qui se trouve sur le personnage Xav dans la série Femme. Et on va être... Ah oui, et je vois qu'il y a, présentement Marianne Farley qui s'est joint aussi à nous. Je veux dire un petit bonjour à vous deux qui êtes en ligne. Salut Marianne, salut Lenny Kim.
Bonjour. Bonjour.
Et il y a aussi à Québec, il y a aussi Brian Saint-Louis qui est notre collaborateur. Alors, on a commencé il y a une quinzaine de minutes, on a commencé par parler de ce fameux retour à l'école secondaire après quelques années, une réunion d'anciens, puis on se rend compte que l'intimidation, c'était pas évident. Puis, moi, je trouve que ça nous amène aussi à parler de cette série, cette fabuleuse série qui s'appelle Femme, qui est diffusée à TV5 Uni. Alors, Femme, c'est deuxième saison qui raconte l'histoire donc de cette personne qui se rend compte que ah mon Dieu, je ne m'identifie pas nécessairement dans le corps dans lequel je suis présentement. Et je pense que je vais laisser Lenny Kim l'expliquer. Donc, une série qui en est à sa deuxième saison. Alors, bonjour à tous les deux. Bonjour Lenny Kim. Bonjour Myriam à nouveau. Alors, je pense que je pourrais commencer. On va commencer avec toi, Lenny Kim. On te retrouve dans la peau de Xav, qui s'approprie davantage sa féminité, son art. En quoi ce rôle a-t-il transformé ta propre vision de la musique et de la performance scénique? Parce qu'il faut dire que Lenny Kim, t'es aussi chanteur, t'es acteur, t'es aussi musicien. Alors, comment ça a modifié ou est-ce que ça a modifié les choses?
Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, on t'entend très bien, oui.
Oui, OK, super. Comment est-ce que ça a modifié ma vision de la performance scénique? Ben, c'est sûr que moi, je fais ça depuis que j'ai quand même... Ça fait un moment maintenant, ça fait depuis que j'ai 13 ans. Fait 11 ans maintenant que je performe. Je ne sais pas si ça a changé en tant que tel comme ma perception de comme la performance. Mais ce que je trouve intéressant, par contre, c'est que performer sur un plateau de tournage, parce que ça, j'avais jamais vraiment fait ça auparavant, comme... performer comme en musique sur un plateau de tournage pour une série qui n'était pas pour ma propre carrière de musique, où là, j'étais dans un personnage qui n'est pas supposé d'être moi, avec des chansons qui ne sont pas les miennes. C'était comme une autre expérience, mais c'est intéressant. C'est une autre façon de performer qui est où on a beaucoup plus de shots pour performer, quoique des fois, c'était sur FM2, mais ça reste qu'on a beaucoup plus de t'sais, mettons, on a une coupe de prise à faire avec tel plan, une autre coupe de prise à faire avec tel autre plan de la performance. Fait que c'est beaucoup de répétitions, beaucoup de « on la refait, on la refait, on la refait ». Mais c'est agréable, en fait, je trouve ça le fun parce que moi qui est vraiment quand même quelqu'un de perfectionniste dans la vie, ça me permet de... J'ai pas juste comme « one shot to do it » comme on stage, comme à ce moment précis, on peut le faire une bonne couple de fois, fait que c'est le fun, tu sais.
T'as vécu ça dans un épisode où tu fais, je pense, une vidéo avec une chanson, puis ils te font recommencer ta danse plusieurs fois au point que t'en as mal aux genoux, hein? Ben, le personnage en a mal aux genoux, là, faut s'entendre, oui.
L'acteur avait mal aux genoux aussi.
Ah, ben oui, Marianne, ben oui. C'est... Ah bon, il y a des secrets qu'on apprend, là.
Ah oui, oui.
Oui. Ben, c'est drôle que t'en parles. Ben, c'est ça, le Marianne, je vois que qu'on arrive, on peut en parler un peu. Mais c'est drôle cette journée-là parce que c'était très méta comme moment parce que le personnage, genre Zav, ce que Zav vivait, c'était un peu ce que je vivais aussi pendant la journée. Fait que c'est vraiment intéressant. Zav était supposé devenir comme très comme exhausted, genre très comme fatigué pendant sa performance musicale. Il tourne un vidéoclip à un moment donné. Bref, tout pour dire, pendant qu'on tournait cette journée-là, le personnage de Zav était supposé de tomber sur ses genoux beaucoup de fois durant la performance. Puis à un moment donné, d'avoir mal aux genoux, à la tête aussi. En tout cas, il faut regarder la saison pour comprendre pourquoi. Ouais. Mais écoute, on n'y avait aucune façon qu'on cache le sol. Fait que moi, j'ai décidé de quand même me lancer à genoux à chaque fois, à chaque take. Fait que ça reste que mon personnage était supposé d'avoir mal aux genoux, mais j'avais mal aux genoux dans la vraie vie.
C'est du méthode acting.
Ben, écoute, je ouais, le terme méthode acting, ouais, oui, c'est une blague. Fait que oui.
Écoute, je vais passer la parole à Marianne. Marianne, c'est la deuxième saison. Qu'est-ce qui est différent cette année par rapport à la première saison?
Ben c'est sûr que c'est une saison qui est beaucoup plus mature, c'est plus dark. On voulait pas non plus rester à la même place, on voulait explorer autre chose. Zav, en fait ses premiers pas dans l'industrie de la musique, où elle est comme confrontée à différentes personnalités fortes de l'industrie. Donc, c'est comme... on n'est pas juste dans le petit village, l'ANAC, on n'est pas juste dans l'adolescence, on est un peu dans la découverte de c'est qui la femme en Zav. Elle va aller explorer différentes formes de féminité aussi. Donc, c'était bien le fun parce qu'on s'est donné des grands défis. On a décidé de mettre plus de... le double de chansons originales. Il y a plus de performances. Lenny aussi s'est vraiment poussé au niveau de sa performance. Et on a rajouté d'autres personnages qui chantent. Plus de chorégraphie, plus de tout, en fait. Donc
plus de budget, peut-on dire?
Non, pas. Pas tant. Juste plus de défis.
C'était vraiment plus dark, comme tu le dis. En fait, moi, ça m'a un peu surpris parce que la première saison se terminait... Moi, je trouvais que ça s'était terminé avec beaucoup de lumière. Mm-hmm. Cette fois-ci, j'ai trouvé que c'était un peu plus dark. Je sais pas pour toi, Joël.
J'ai juste écouté la première saison, moi, fait que okay. Je suis vous me donnez l'eau à la bouche. Pour vrai, j'ai hâte d'aller voir ça. Mais moi aussi, je trouvais que la première saison... en fait, j'ai des commentaires plus tard sur la première saison que j'ai vraiment aimé. Fait que je trouvais que ça faisait vraiment du bien à écouter. Comme un feel good, mais en même temps pas exagéré feel good, sinon ça m'aurait tapé ses nerfs. Il y avait quelque chose de très, très vrai dans l'écriture et dans la réalisation. Mais j'ai pas vu la saison 2, fait que je sais pas encore.
Mais je sais pas, Mariam, il y a quelque chose à la saison 2, moi, que j'ai trouvé. Vous abordez la question. De tous ces questionnements qu'on a vis-à-vis, qu'on peut avoir vis-à-vis les personnes trans, est-ce que tu as été opéré ou pas? Et c'est abordé d'une façon assez choquante. Je pense qu'il y a Maxime qui vient de se joindre à nous, hein, si je ne me trompe pas. Tu es là, Maxime? Non, excusez-moi, je pensais qu'on avait Maxime qui était là. J'entendais parler. Donc, ce que je comprends bien, on est allé dans ce niveau-là, puis c'est vraiment abordé d'une façon... Puis c'est pas un jugement, c'était vraiment choquant quand l'espèce de directeur ou de gérant ou la personne qui voulait prendre Xav voulait vraiment le suivre, la suivre pendant tout ce cheminement. Lui disait, ben, va te faire opérer carrément là.
Ben oui, c'est certain que ce personnage-là représente un peu les biais qu'on peut avoir par rapport à une personne trans, ou les jugements qu'on peut avoir de se dire, ben, si tu veux être une personne trans, il faut que tu y ailles all the way, tu sais. C'est comme, il y a peu de place aux nuances dans ce débat-là, tu sais. Puis je pense que c'est ça qu'on voulait mettre de l'avant aussi. Et il fallait que Xav reste un personnage jeune, elle a 17 ans. Il fallait qu'elle se perde pour mieux se retrouver, tu sais, d'idéaliser cette femme-là, l'ex qu'on découvre à l'épisode 1, qu'elle décide de essayer de devenir cette femme-là pour se rendre compte que être une femme, ça ne veut pas dire être une femme précisément, tu sais. Il y a cette recherche-là aussi de plonger dans l'hyper-féminité aussi. Mm-hmm. Puis on essaie de le faire sans jugement aussi. Tu sais, Xav pense que c'est ce qu'elle veut être, c'est ce qu'elle veut devenir. Puis finalement, elle se rend compte qu'elle est peut-être allée trop vite. Tu sais. Mais c'est sûr que c'est quand même... c'est ça, c'était... Tout ça, on essaie de l'aborder avec le plus de bienveillance puis le plus de nuances possible. Mais c'est certain que, comme je disais, fallait qu'on avait envie d'aller explorer autre chose. Tu sais. Puis il y a beaucoup de jugements à même la communauté trans puis à même la communauté LGBTQ ouais. sur... C'est quoi une personne trans? C'est comme, faut que tu rentres dans une case vraiment, vraiment précise. Puis je pense que nous, ben, on n'abonde pas dans ce sens-là du tout. Là. Oh, Max est là.
Oui, Maxime Beauchamp, que je vais présenter, qui est l'idéateur. Puis on dit le showrunner. Vous allez m'expliquer, c'est quoi un showrunner en passant? Allô? Oui, allô?
Ben, bonjour.
Bonjour, Maxime. Alors, justement, Maxime, oui, vas-y.
Ben, c'est un terme qu'on voit beaucoup plus à la télévision anglaise ou du côté américain, beaucoup moins du côté québécois, parce que souvent, dans le rôle de showrunner, ben, il y a plusieurs réalisateurs qui dirigent différents épisodes. Fait que tu es un peu gardien de la vision à travers que chaque réal fait sa perspective. Ici, ben, on a Marianne Farley, fait que c'est fantastique. Je veux dire, il n'y a pas grand gardiennage à faire. C'est surtout Marianne qui élève la proposition.
Mais c'est quand même ton idée de base. Hein? Et ça vient d'où, Maxime? On n'a jamais eu la chance de se parler de toi. Puis moi, ça vient d'où cette idée? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu créer cette série Femme?
Bonne question. T'sais, des fois, j'ai l'impression qu'on s'attend genre une grande réponse métaphorique de la vie et tout
pas
ça.
Pas du tout, on s'attend à la vérité.
Bon, mais fantastique. Moi, je participais à une formation d'écriture qui était donnée par l'Université de Moncton, puis je faisais ça de façon virtuelle. Puis j'avais eu cette idée-là que quelqu'un écrivait une chanson ou qui vidait son cœur, puis qui devenait viral. Et puis qu'à cause de ça, ben, sa vie change un peu. Fait que c'est de là qu'est partie l'idée. Puis là, j'ai commencé à me poser la question, ben, c'est qui cette personne-là? C'est quoi qu'elle vit? La chanson est à propos de quoi? Puis tranquillement, le personnage de Xav s'est créé, puis l'univers qui tourne autour.
Ah, mais moi, je ne savais pas ça, c'est cool.
Ah, bon, ben, c'est bon, on apprend plein de choses à cette émission. Je reviens à toi, Lenny Kim, puis peut-être tout le monde pourra répondre à ça. C'est quand même une question qui a été soulevée plusieurs fois dans les communautés. On a quand même un acteur cisgenre qui interprète un personnage, une personne trans. Est-ce que certains voient ça comme problématique? Vous autres, comment vous voyez ça? Je pense que je vais le laisser comme ça comme question, ça va être plus simple, oui.
Ça a été une grosse, grosse question qu'on a eue de notre côté, tout à travers le développement, à travers le côté casting. Puis, une des grosses choses, c'est qu'en saison 1, le personnage de Xav passe 95% ce qu'on dit « male presenting mm-hmm. ». T'sais? Fait que on a vu plusieurs personnes trans en audition, mais souvent, les gens de cet âge-là, de 16, 17, 18, 19, 20 ans, viennent de finir leur transition, puis nous, on leur demanderait de reculer en arrière, de défaire leur transition pour venir performer le rôle de Xav en tant qu'homme. Mm. C'est quelque chose qui est très retraumatisant pour la majorité de ces personnes-là. Puis aussi, ben, il faut dire qu'il y a aussi le talent de Lenny Kim qui rentre en jeu. T'sais, je veux dire, on a vu Lenny Kim en audition, puis on a vu tout ce qu'il pouvait apporter au personnage, du côté de la performance, du côté des nuances, du côté de la personnalité. Puis
oui, parce que Lenny Kim, il sait chanter quand même, là.
Oui.
C'est
Oui,
chanté, oui.
puis les contextes aussi de tournage, les conditions de tournage, on est au Québec, on tourne rapidement, on n'a pas les moyens non plus de préparer ce rôle-là des années d'avance. Puis ça prenait quelqu'un qui était déjà capable de performer, de chanter, de danser, qui était capable de porter ce personnage-là au niveau du jeu aussi pour que ce soit crédible, parce qu'il n'y a rien, tu sais, ça. Le show n'aurait pas fonctionné si on n'avait pas trouvé cet acteur-là. Puis comme Max disait, on a quand même fait passer des auditions. Et la saison 1, c'est cette dysphorie-là qu'on met à l'écran. Donc, pour
Oui.
pouvoir mettre cette dysphorie corporelle-là à l'écran, ça prend... Il faut qu'on puisse voir que le corps n'est pas un reflet de voyons, de m'expression, pas d'expression, de. Voyons, je parle mes mots.
D'identité?
Ton corps ne reflète pas ton
L'identité,
identité.
merci, de
Oui.
l'identité de genre du personnage. T'sais. Donc, Xav se sent comme une femme, mais malheureusement, son corps, elle est venue au monde dans un corps très masculin. Donc, pour que ce soit crédible, ça prenait vraiment ce corps de jeune homme-là. Et puis tu sais, comme Max disait, on a fait passer des auditions. Là, on demandait aux gens, est-ce que vous seriez prête à couper vos cheveux, faire une voix plus masculine? Tu sais, c'était quand même des demandes qu'on considérait un peu violentes, tu sais, pour quelqu'un qui avait déjà transitionné. Donc, ça a été, tu sais, c'est pas une décision qu'on a prise à la légère. Là. On a beaucoup, beaucoup parlé.
Je vais passer le micro à Joël Prudhomme qui aurait une question, oui.
Ben, c'est pas une question, en fait, c'est un commentaire par rapport à la saison 1 que j'ai vu. Puis dans le fond, je voulais juste souligner vous avez parlé tantôt de nuances, puis que vous mettiez beaucoup d'importance à la nuance. Puis je pense que c'est une des forces de la série, surtout de la saison 1, du moins, sous toute réserve de la 2. Mais dans le sens où je trouvais que même la famille, la façon qu'on parle de la famille, je trouve qu'on se tient loin des archétypes très clichés parce que la famille a ses bobos, mais en même temps est très attachante, le lien avec la mère, même le père. Il y a plein de nuances. Puis ça, je trouve que dans la télé québécoise slash franco-canadienne, je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse que ça soit pas, que les gens soient pas coincés dans un archétype de personnage. Je trouve que vous l'avez vraiment bien fait. Je parle de la famille, mais les amis même, et même à travers l'intimidation que subit le personnage, ses réponses très tranchantes. Il y a quelque chose de. C'est ça, il y a quelque chose de très nuancé, puis les personnages, c'est pas genre juste « Ah, oh, ben ça, c'est le père violent qui accepte pas l'homosexualité, c'est juste ça qui est. » C'est tout en nuance, fait que félicitations pour ça, je trouve que c'est un objectif très atteint.
Ben,
Merci.
merci.
Merci, Joël. Plaisir.
La série a remporté la meilleure série de fiction au Gala des Gémeaux en 2024, quand
A pas
même.
remporté, mais a été
A été
nominée.
nominée,
Nominée
excuse-moi,
en nomination,
excuse-moi,
oui.
je me lis mal, ça m'arrive des fois, ça c'est l'âge. Est-ce qu'il y aura une troisième saison?
Non, malheureusement, il n'y aura pas une troisième saison.
Non, je pense qu'on est arrivé. Je veux pas, parce que comme Joël n'a pas vu la deuxième saison, puis je ne suis pas sûr que tout le monde l'a vu qui nous écoute, je ne vais pas divulgâcher la finale, mais c'est quand même, il y a un choix que vous avez fait de ne. En fait, je peux dire, on n'a pas décidé ce que va faire Xav. Ça, c'est un choix qui était important.
Ben, ouais, définitivement, parce que je veux dire, Xav, c'est quand même un personnage encore jeune dans sa
17
carrière
ans, oui.
musicale. Je veux dire, notre chemin n'est pas tracé à 18 ans. Il en reste plein de choses.
Et Lenny Kim, toi, je sais que qu'est-ce qui va t'arriver là?
Ah, ben, qu'est-ce qui peut m'arriver? La vie continue, hein. Il y a plein de
T'as
choses qui
des ambitions
continuent
pour aller
ici.
jouer en France, si je comprends bien.
Ah, ben oui, j'ai un agent qui est en France maintenant aussi, mais moi, je continue le cinéma depuis Femme, je continue la musique aussi. Là, j'ai de la musique qui sort fin mai, qui sort dans les prochains. Pardon, je reçois un message en plein milieu. J'ai de la musique qui sort durant toute l'année. Là, je vais tourner sur une série aussi cet été.
Peux pas
Alors,
savoir c'est quoi?
je pense pas que je peux en parler
Ah,
encore
je
exactement. Je
m'essaye
suis
toujours, hein?
pas sûr. Mais c'est une nouvelle série qui, voilà, je sais pas si ça se sort quand, mais ça va être tourné cet été. Alors moi, je continue tout ça, je continue le cinéma, je continue la musique, je n'arrête pas.
Ben, c'est après tout le temps qu'il nous reste. Je voulais vous remercier tous les trois d'être passés à l'émission. Puis, ben écoute, on rappelle donc, Femme, c'est disponible sur TV5 Plus. C'est aussi disponible sur Unitv. Là, tout ça, c'est en train
Et
de
sur
changer.
Netflix.
Ben, ils sont Netflix
ah,
aussi,
ouais.
C'est
Oui.
vrai, c'est sur Netflix.
La saison 1 est sur Netflix, puis la 2, je pense qu'elle va sortir probablement en 2027, si je ne me trompe pas.
Ben, on vous remercie beaucoup, puis certainement, tous vos prochains projets, on est intéressés de suivre ça. Merci beaucoup, tous les trois. Alors, je rappelle donc qu'on recevait Lenny Kim, Maxime Beauchamp et Marianne Farley, donc de la série Femme. Merci beaucoup.
Merci. Merci.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Je me peux plus.
Je me peux plus.
Je me peux plus.
Ah ben oui, Mathieu nous joue un tour parce que c'était pas. On avait dit en fait qu'on n'aurait peut-être pas de coup de cœur, mais en fait on en a un. C'est vraiment la série Femme. Puis on peut dire aussi que le retour à Laval, c'est un coup de cœur.
Non. Hein? Non.
Mais juste revenir sur la série quand même. Il y a des choses intéressantes dans cette série-là. Mm-hmm. On explore la transition d'une personne, d'une jeune personne, et Dieu sait que ça cause beaucoup de discussions dans notre monde. Hein?
Ça cause beaucoup de commentaires hein, ouais. sur les réseaux sociaux de gens qui ne s'y connaissent pas du tout.
Non, c'est majoritairement les gens qui ne s'y connaissent pas beaucoup.
Puis je trouve ça incroyable de la part de Maxime et des scénaristes parce que c'est vraiment le point de vue d'une jeune personne qui se retrouve dans une transition sociale. On s'entend. Je pense que Xav prend des bloqueurs d'hormones à un moment donné, c'est tout. Et moi, j'ai quelque chose que je n'ai pas sorti dans notre discussion. Ce que j'ai trouvé beau, c'est la notion du pardon. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui manque dans notre société, tu ne trouves pas?
Oui, c'est ce que je voulais dire un peu. Il n'y a pas de méchant dans cette série-là. Il y a des choses qui sont faites de façon méchante, mais je veux dire, les personnages ne sont pas comme enracinés dans de la méchanceté. Fait que ça fait du bien. Puis on en parlait justement, je n'ai pas vu la saison 2, mais je me dis qu'il y a quelque chose de positif de montrer les réels défi d'une personne trans, puis on en parlait avec Olivier, qui sont pas juste le fait d'être trans, mais chez une artiste, ça vient faire bouillir quelque chose en dedans aussi. Oui. Tu sais plus qui t'es comme personne, tu sais donc plus qui t'es, qu'est-ce que tu as envie de dire comme artiste, c'est quoi ta voix, il y a plein de nuances là-dedans. Là,
Il faut dire hein, qu'ils ont beaucoup de personnes trans qui sont dans ce show-là, même si le rôle principal est interprété par un acteur cisgenre masculin, il faut quand même. Puis je trouve que l'explication est intéressante. Moi, quand on parle du pardon, ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'à un moment donné, il y a une chicane entre Xav et son chum. Puis tu sais, c'est tellement triste, puis il y a tellement de la peine, et puis il se retrouve à la fin, puis il se pardonne. Moi, je trouve que dans notre monde, on manque de ça. C'est drôle, hein? On est censé être judéo-chrétien, mais la notion du pardon, puis le vrai pardon. On parle pas de la cochonnerie, là, où on se met à genoux pour demander pardon, là.
Ouais. Puis dans Retour à Laval, si je peux me permettre, en fait, j'ai décidé de pas que Luca, il pardonne pas à ses bullies, ni à son bully principal, le tue à qui il s'adresse la majeure partie de la pièce. Par contre, à la fin, il arrive à se pardonner à lui-même d'avoir intériorisé, tu sais, cette homophobie-là, puis d'avoir pas voulu être gay, puis de l'avoir déversé sur un autre jeune homme là qui est juste là pendant quelques semaines à l'école. Là. Fait que, tu sais, il y a aussi la notion de, ben, c'est pas notre faute. Si ça nous arrive dans la vie, c'est de la faute de tout un système, en fait, machiste, patriarcal, etc. Puis, il faut se pardonner à soi-même aussi, mal d'avoir... C'est ça, mon meilleur ami, c'est un gars trans. Puis, avant de le connaître, il y a 20 ans maintenant, ben, j'étais transphobe, tu sais. Donc, il m'a appris énormément. Moi, je dis, tout le monde devrait avoir un ami gars trans. Mais, donc, c'est ça. Surtout les gars, là, ça les aiderait.
J'imagine. 100%, je suis d'accord avec toi. On va essayer de se faire donné par Brian, parce qu'on n'a toujours pas donné la parole à Brian, qui doit nous parler de deux livres aujourd'hui. Ben justement, on parle de personnes trans. Ben, il va nous parler de Cumul 1 de Kev Lambert.
Oui, c'est moi qui achève ça, cette émission-là.
Oui.
Cumul 1 de Kev Lambert. Pas le choix de vous en parler, bien sûr. Tout le monde attendait ça, cette nouvelle parution-là. Kev Lambert, qui est maintenant une autrice, il faut le mentionner, maintenant on le dit « elle ». Donc, ce nouveau livre-là, très court, tout petit, ça s'appelle « Cumul 1 », c'est le titre d'une œuvre de la sculptrice Louise Bourgeois, que vous connaissez peut-être, ceux qui sont allés à Ottawa, celle qui a fait la grosse araignée devant le Musée des Beaux-Arts aussi. Et donc, elle a fait une œuvre qui s'appelle « Cumul 1 », qui est une espèce d'œuvre en marbre, on pourrait dire que ça a tous l'air à des petits phallus, mais vous irez voir l'image sur Internet. Et là, on va suivre le personnage d'Alice, qui est le professeur d'un élève qui s'appelle Bernardo, qui lui demande d'aller voir cette pièce-là à Paris, parce que lui va faire son travail de maîtrise là-dessus, puis il veut qu'elle aille le voir pour pouvoir l'accompagner dans ce travail-là. Elle s'y rend, Et là, elle va avoir la chance de voir cette pièce-là dans un musée à Paris, alors qu'on va fermer le musée pendant quelque temps. Donc, on enferme, on va décaisser l'œuvre pour elle, pour qu'elle puisse l'observer. Mais là, ça va, c'est tout, dans le fond. Elle arrive à Paris, elle ouvre la caisse, elle regarde l'œuvre. Tout le reste est dans la tête d'Alice, qui réfléchit énormément. Alice est une personne trans, et là, elle va réfléchir tout le long du livre par rapport à sa relation avec Bernardo, qui est un peu le querelle de Roberval de ce livre-là. C'est un homme puissant, masculin, qui l'intimide un peu. Et là, elle se demande tout le long, mais pourquoi il me fait ces effets-là? Je ne veux pas avoir de pensée sexuelle pour lui par rapport à, par exemple. Et là, elle va réfléchir pourquoi il a ce pouvoir-là sur moi. Et ça va être une énorme réflexion, autant sur sa personnalité de trans à elle, comment ça se passe dans son milieu universitaire, sa réaction par rapport à ses élèves, beaucoup de critiques aussi politiques par rapport au régime en place. En ce moment, il y a beaucoup de messages dans ce court roman-là. C'est un roman de Kev Lambert. Donc, encore une fois, il y a des moments de violence aussi, que moi, je ne suis pas toujours au diapason de Kev Lambert par rapport à son utilisation de la violence dans ses livres, mais là, c'est quand même bien placé. Et donc, tout petit livre, mais très intéressant, tout en pensée. Et c'est rare, bien sûr, qu'on ait des personnages principaux trans dans les livres. Donc, très intéressant ce livre-là. C'est un de nos grands auteurs. C'est une de nos grandes autrices, pardon. Je savais que
Oui.
j'allais me tromper. Donc, vous pouvez lire ce nouveau livre-là. C'est chez Héliotrope.
Et puis, on va parler
Oui.
de la maison au tatouage dansant de Philippe Aubert-Côté.
Ah non, je ne l'ai pas lu celui-là,
Ah,
je m'excuse.
je pensais que tu m'avais
Ben
mis ça
non.
dans ta liste. OK.
J'ai lu du Olivier Sylvestre toute la semaine, j'ai lu trop de livres, ça n'arrête plus. J'ai lu pour vous Éclat de ma marraine gothique de Pierre-Luc Gagné, qui est
Ah
paru
oui.
chez
Ah oui.
l'instant même. Très beau livre où il nous parle de sa tante Liette. Liette qui a eu une vie difficile, des conjoints difficiles, qui était alcoolique, qui avait et qui en est décédé d'ailleurs, on l'apprend assez rapidement dans le livre, c'est pas un très gros punch. Pierre-Luc Gagné, il devient un petit peu une espèce de Michel Tremblay. Il a fait un livre sur sa grand-mère, il a fait un livre sur sa vie aussi. Là, il parle beaucoup des femmes autour de lui, et c'est une nouvelle femme qu'il aborde dans ce livre-là, avec les éclats de ma marraine gothique. C'est très touchant de voir la misère parfois de certaines personnes. Bon, on revient au livre d'Olivier, encore une fois. Donc, de voir qu'il y a des gens qui se retrouvent vraiment dans des situations de vie excessivement difficiles, et c'est dur. Même s'ils ont de l'amour autour d'eux, c'est difficile de s'en sortir. Et là, donc, un bel hommage à sa tante qui est morte. C'est une écriture en fragments, encore une fois. Il a le don du mot juste. Il est en économie de mots. Il vise là exactement où il faut aller. Par contre, ben, c'est ça justement. Moi, j'aurais peut-être aimé, à quelque part, qu'on aille plus qu'on étoffe un peu parce que des fois, ça va vite, cette écriture-là. Puis des fois, on aimerait avoir plus de détails pour s'accrocher encore plus. Mais c'est un très court récit. C'est tout beau, c'est tout le fun. Donc, ça vient de paraître. Il écrit beaucoup, donc à découvrir. Puis à le gagner. C'est Les éclats de ma marraine gothique chez l'instant même. Et si j'ai 30 secondes
Oui.
rapidement, je les ai-tu? Moi, j'en ai un petit coup de cœur rapidement parce que j'ai encore lu d'autres livres, bien sûr. Le livre sur Musique Plus, avez-vous vu ça passer?
Oui.
La musique dans le sang, une histoire orale de Musique Plus, c'est paru chez les éditions de ma mère, Marie-Lise Rousseau. Si vous avez été comme moi dans les années Musique Plus, que vous avez écouté Musique Plus, que vous avez écouté la musique, ce livre-là, c'est un foisonnant ramassant de souvenirs qu'on a. On se souvient des VJs, de comprendre tout l'important. Il y a beaucoup de personnes queer qui adorent ça, la musique. Donc, de replonger dans cet univers-là, des groupes qu'on a aimés, des VJs qu'on a connus, des événements. Moi, ça m'a surpris ce livre-là, de me souvenir à quel point je me souvenais de beaucoup, beaucoup de détails de l'histoire de Musique Plus. Je suis sûr que ça va plaire vraiment à plein de gens qui écoutent l'émission
Oui.
aujourd'hui parce
Le
que la
pouvoir.
musique a tellement toujours pris de la
On
place
a
dans nos
tellement
vies.
dansé, hein?
Oui, le pouvoir de
Oui.
la nostalgie aussi, là.
Je vais aller rapidement. Olivier, t'arrives quoi, là? Parce que là, il y a d'autres projets, là.
Ouf, moi, je pars dimanche pour 2 mois pour des résidences en France et en Allemagne.
On a pitié, on a beaucoup pitié de toi.
Oui. Alors, moi, je suis un peu dans les préparatifs, là. Faut que je torche mon appart au complet avant de partir. Donc, c'est ça qui m'arrive en ce moment. Mais oui, des beaux projets avec. Ça sera annoncé éventuellement, Théâtre aux Écuries, avec le Trident à Québec. Voilà.
Wow.
Ben, merci, Olivier Sylvestre. Merci
Merci à
beaucoup,
vous.
Joël Prud'homme, d'avoir été là. Merci
Plaisir.
aussi à Brian. Alors, on se revoit l'année prochaine, la prochaine saison, pour le retour de Culture Queer.
rejoindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @dmchabotauteur, et sur LinkedIn, Denis trait d'union, Martin trait d'union, Chabot.
Bien, merci à toute l'équipe. Merci à Godéric Trob d'avoir contribué à la recherche. Merci à toi, Mathieu Tessier, à la mise en onde. Ici Denis Martin Chabot à la réalisation de l'animation. À bientôt!